Merci au Seigneur aussi d'avoir dirigé dans le choix du dernier chant, qui est une excellente introduction à ce que nous allons partager ensemble ce soir. Je suis heureux, inutile de vous le dire, et pourtant je le fais quand même, c'est une bonne chose, d'être avec vous. Je crois que Longjumeau doit battre le record de fidélité en ce qui concerne le ministère qui est le mien, puisqu'il est un certain nombre d'églises qui, dans notre pays essentiellement, ont pris l'habitude de vouloir que je vienne leur rendre visite de temps en temps. J'ai été le week-end dernier dans un petit poste pionnier que je visitais pour la 7e fois à Brive, en Corrèze. Et ça fait du bien, ce week-end, d'être ici. D'autant plus, c'était intéressant lorsque le sujet que nous allons traiter ensemble m'a été proposé. Je me suis rendu compte que c'est un sujet que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder ensemble. Ma première visite en 1980 à l'église de Longjumeau était consacrée à ce sujet. C'est intéressant. Mais je me réjouis beaucoup de reprendre ce sujet, d'une part parce qu'entre 1980 et 1988, de l'eau a coulé sous les ponts. Le Seigneur a continué à expliquer bien des choses. Et ce qui était à l'époque une série de trois études, puisque nous avions vécu trois études, non pas dans les beaux bâtiments que nous avons ici, mais dans d'autres circonstances et en d'autres lieux, qui avaient aussi leur charme, je dois dire. Mais maintenant, cette série est une série en réalité de 8 études. Elle a fait des petits. Et nous allons essentiellement, pendant ces 4 réunions, voir un premier grand pan que j'intitulerai donc le générique, le thème général, c'est vouloir ce que Dieu veut. Toute cette question de la volonté de Dieu en relation avec la vie du disciple de Jésus-Christ. Nous allons passer tout ce temps ensemble, ces 4 études, à essayer surtout de répondre à une des grandes questions que se pose tout croyant, très rapidement même après sa régénération, comment discerner la volonté de Dieu. Que ce soit dans les camps, les conventions, les retraites d'église, même dans la vie d'église tout court, lorsqu'on a une boîte aux questions, lorsqu'une question est mise sur papier et glissée dans une boîte aux questions, ça, c'est une des questions qui revient régulièrement. Comment discerner la volonté de Dieu dans notre vie de tous les jours? Et puis, il y a une deuxième série qui, au départ, ne constituait qu'une étude des trois en 1980, mais qui s'est étoffée et qui consiste surtout à voir comment Dieu éduque notre volonté pour qu'elle devienne servante de la sienne. Comment Dieu nous apprend pratiquement sur le terrain à être dépendant de lui. Ça, c'est un second pan, toujours sur ce thème. Dieu voulant, nous aurons l'occasion de le voir à une autre occasion. Nous allons lire deux passages ce soir. Le premier dans Matthieu 26. Matthieu 26, versets 36 à 46. Un des grands textes bibliques concernant la volonté de Dieu en rapport avec la vie de Jésus-Christ au milieu des hommes. Matthieu 26, versets 36 à 46, texte bien connu des habitués de la parole de Dieu. Là-dessus, Jésus alla avec eux, avec ses disciples, dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Le second texte dans la lettre de Paul à l'église de Rome, épître aux Romains, chapitre 12, nous lisons les deux premiers versets, Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Et voici ce que Dieu nous dit ce soir. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le thème que nous développons est très important. Nous l'avons souligné déjà tout à l'heure. Et j'ai sous les yeux une petite illustration de l'importance de ce thème. Et c'est une illustration qui fait mal. Il s'agit d'un médecin missionnaire hollandais, Eric, et sa femme finlandaise, Eve. Tous deux étaient retournés dans l'Afghanistan en guerre en 1980 après un bref congé. C'est donc de nos années. Et ils ont été tués tous les deux avec des couteaux à cran d'arrêt dans leur maison qui servait aussi d'église. Là-bas, en Afghanistan, laissant deux enfants de 5 et 3 ans. Et quand on leur a demandé, avant leur départ pour Kaboul, s'ils n'avaient pas peur, Ève a répondu simplement ceci, « Je ne connais qu'un grand danger, ne pas être au centre de la volonté de Dieu. » Ça fait réfléchir. Je ne connais qu'un grand danger, ne pas être au centre de la volonté de Dieu. Je ne sais pas comment nous raisonnons, nous. Nous ne sommes pas dans les circonstances de ce couple. Nous ne sommes pas dans un pays en guerre. Nul d'entre nous ne peut dire qu'il risque sa vie pour la cause de Jésus-Christ. Mais quel est notre raisonnement? Ou plutôt, dit d'une autre manière, quelle est notre grande préoccupation? Il existe dans l'océan Indien des typhons des sortes de cyclones qui ont une particularité, celle de ne pas se diriger de manière assez particulière et incompréhensible, puisque vous le savez, c'est le problème des cyclones qui changent très facilement de direction et qui plongent dans la confusion les météorologues. Mais ces typhons, ces tempêtes, ces cyclones de l'océan Indien ont ceci de particulier, c'est qu'ils ne se déplacent pas autrement que sur place. Ils tournent comme une toupie sur eux-mêmes, dans une sorte de cercle, en quelque sorte. Ils tracent un cercle, un circuit circulaire, jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent par des processus climatiques que je serai bien incapable de vous expliquer. Et autrefois, ces sortes de typhons, ces cyclones, faisaient la terreur des marins et des capitaines des bateaux qui sillonnaient l'océan Indien. Tout simplement parce que quand les bateaux arrivaient dans la zone de turbulence, en quelque sorte, de ces typhons, de ces cyclones spéciaux, ils ne savaient pas très bien comment réagir. Et ils avaient l'attitude tout à fait classique, qui serait aussi facilement la nôtre, c'est d'essayer de s'écarter du danger. Ils essayaient donc de faire marche arrière pour quitter, si c'était possible, cette zone de turbulence. Et en général, c'était la catastrophe. C'était ce qu'il ne fallait pas faire. Mais on ne connaissait pas le mécanisme de ces cyclones. Et c'était généralement le naufrage. Et sans doute accidentellement, on a fait beaucoup de découvertes par accident, et sans doute accidentellement, un jour, un navire a fait l'inverse. Et au lieu d'essayer de sortir de cette zone de turbulence, il est allé plus avant. Et à sa grande surprise, le bateau s'est retrouvé au cœur de cette zone de calme, de paix, entouré, n'est-ce pas, le cyclone faisant le tour autour de lui, n'est-ce pas? Et ils ont attendu là jusqu'à ce que le cyclone soit terminé. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, qu'on a appris que pour éviter certains drames, avec certains types de cyclones, il ne fallait pas les éviter. Mais il fallait au contraire pénétrer au cœur de la zone, là où était le plus grand calme, qui n'est pas l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, c'est aussi une zone calme, mais c'est tout à fait différent, n'est-ce pas? Mais là, dans cette zone interne, cette surface qui est entourée, n'est-ce pas, par le chemin parcouru continuellement par le cyclone. Cette petite histoire, simplement pour souligner que rien n'est plus désagréable et dangereux pour le disciple de Jésus-Christ que de se maintenir à la périphérie de la volonté de Dieu. Ce couple a dit que ce qui comptait le plus pour lui, c'était d'être au centre de la volonté de Dieu. Je suis persuadé que notre grand problème en tant que disciples de Jésus-Christ, c'est que nous préférons les demi-mesures, c'est-à-dire être à la périphérie, là où le souci de Dieu pour nous, c'est que nous soyons au cœur de la volonté de Dieu. Et c'est là, au cœur de la volonté de Dieu, même quand la tempête fait rage autour de nous, que nous pouvons connaître la vraie paix du cœur. Seulement quand nous sommes au centre. Et je ne fais absolument pas de politique ce soir. La volonté de Dieu était très importante dans la vie de Jésus-Christ. Et cela devrait nous secouer. Si vous lisez, par exemple, nous allons lire deux ou trois passages clés, Hébreux 10, Nous avons une remarque concernant la vie de Jésus-Christ qui est porteuse d'un enseignement très important pour nous. Hébreux 10, versets 5 à 7. Il nous a dit ceci, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Retenons d'ailleurs ceci, « Tu m'as formé un corps. » Nous aurons l'occasion d'en parler. « Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Ça, c'est un texte absolument fondamental en ce qui concerne notre thème. Parce qu'il souligne que Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, a pris la résolution au moment de son incarnation, c'est-à-dire au moment où il allait entrer dans le monde, il a pris la résolution de faire la volonté du Père. Ce n'est pas quelque chose que Jésus a décidé en grandissant au milieu des hommes. C'est une décision que Jésus-Christ a prise avant d'être sur la terre. C'est une résolution du ciel au moment d'entrer dans le monde. Pourquoi cela est-il important? Cela est important parce que ceci montre que la question de faire ou de ne pas faire la volonté de Dieu est une question d'état d'esprit. On ne décide pas de faire la volonté de Dieu au coup par coup, au fil du déroulement des événements de notre vie quotidienne. Mais un jour, dans notre vie de disciples de Jésus-Christ, nous devons prendre la résolution dans notre cœur d'en faire un principe de vie. C'est une question de mentalité. C'est une question de philosophie personnelle, de philosophie de vie. Je prends la résolution. De la même manière que nous devons prendre la résolution à un moment donné de notre vie de disciple de Jésus-Christ, de vivre dans la pureté, au niveau de la sexualité, de manière à nous éviter de nous retrouver dans des marais où nous essayerons de surnager, de brasser, sans avoir de colonne vertébrale, sans avoir de philosophie de vie. Et trop souvent, nous, disciples de Jésus-Christ, nous vivons un petit peu comme ça, au coup par coup, au petit bonheur, la chance. Il faut que dans notre vie, nous prenions des résolutions. Qu'est-ce qui a fait que Daniel a été vainqueur du monde à Babylone, tout en rendant un témoignage si remarquable? C'est parce que ce jeune homme avait pris la résolution de ne pas se souiller. Au départ. Il n'a pas dit « Je verrai bien quand je serai dans telle ou telle situation. » Mais au départ, ce jeune homme avait pris une décision qui était la philosophie de sa vie, ou sa philosophie de vie. Et c'est ce qui l'a aidé. Il n'a pas été surpris. Parce que le diable, lui, a du réflexe. Lui sait très bien nous surprendre. Il sait profiter de nos flottements. De ces moments où nous nous tenons dans le marais en nous disant « qu'est-ce que je fais ? Peut-être d'un coup, peut-être maintenant, dans quelle direction est-ce que je vais maintenant ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut pas le coup ? » N'est-ce pas ? Nous en sommes là. C'est le jeune converti à Jésus-Christ qui part au service militaire et qui n'a pas pris la résolution de vivre un témoignage clair devant ses camarades. Alors il est là dans sa chambre et il se dit « qu'est-ce que je fais maintenant ? Je prie ou je prie pas ? Je lis ma Bible ou je lis pas ma Bible ? Je témoigne ou je témoigne pas ?» Et vous savez ce qui se passe en général? 9 fois sur 10, il met le drapeau dans la poche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris la résolution au départ. C'était avant de partir à l'armée qu'il fallait prendre une résolution devant Dieu, en comptant sur Dieu pour la tenir. Et pas se dire, on verra bien quand on sera dans la situation. Il en est de même en ce qui concerne cette question de vouloir ce que Dieu veut. Jean 4, 34, second texte, Jean chapitre 4, verset 34. Jésus dit à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, vous entendez bien, ma nourriture. Et nous savons que la nourriture, c'est vital. L'essentiel pour moi qui passe avant la nourriture physique, parce qu'il est question de nourriture physique autour de ce texte aussi, ce qui est vital pour moi qui passe avant toute chose, disait Jésus sur la terre, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux, de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et alors là, nous pourrions continuer. Nous aurions pu passer notre soirée à éplucher tous les textes de l'Évangile selon Jean qui appuie ce passage. Puisque, en dehors du fait que l'évangile selon Jean est l'évangile de la révélation de Jésus-Christ, fils de Dieu, l'évangile de la foi et de l'incrédulité, cet évangile selon Jean est en particulier l'évangile des relations entre le Père et le Fils, et le Fils et le Père. Et qu'au cœur de ces relations se cache le souci permanent de Jésus-Christ de faire la volonté du Père, d'être agréable au Père. Alors là, si vous alliez au chapitre 5 et au verset 30, je prends quelques échantillons ici et là. 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon jugement est juste. Jésus dit que son discernement, la manière dont il jauge des personnes, des situations, des événements, des circonstances, est liée à son souci permanent de faire la volonté du Père. Qu'est-ce qui aiguise le discernement de Jésus, sinon son souci d'être agréable au Père ? Nous y reviendrons, mais il y a là quelque chose de très important. Chapitre 6, verset 38. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, la suite est belle, on va la lire. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné. C'est pour cela que je ne peux pas croire à la perte du salut. Jésus-Christ est capable de garder encore aujourd'hui ce que Dieu lui a donné. Bien sûr, il y avait d'abord un accomplissement littéral pour le séjour du Seigneur Jésus sur la terre, mais au-delà, il y a aussi un accomplissement pour nous. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Nous y reviendrons. Si nous allons au chapitre 8, verset 29, ce sera le dernier texte d'ailleurs, mais il y en a beaucoup d'autres dans cet évangile. Chapitre 8, verset 29. Je prends à partir du verset 28, Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je fais selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ça ne vous frappe pas. Cette accumulation de textes, de cet évangile de l'intimité de Jésus, de ce qui n'est pas une photographie mais une radiographie de la personne de Jésus, qui va vraiment dans les profondeurs de la personne de Jésus, dans sa relation avec le Père, qu'il y a une telle insistance, ce souci permanent du Fils d'être dans la volonté du Père. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il existait entre le Père et le Fils et le Fils et le Père des liens d'amour parfaits. La motivation du vouloir ce que Dieu veut, le moteur, ce n'est pas d'abord la crainte, mais c'est l'amour. Et je dirais que nous prouvons, vous et moi, la valeur de notre amour pour Dieu à l'intensité de notre désir mis en action de lui être agréable. Quand on aime profondément quelqu'un, on ne va pas faire tous ses caprices, bien entendu. Mais on est heureux de lui être agréable. Quand on l'aime. Tout bon fiancé le sait. Et toute épouse qui aime son mari ou tout mari qui aime sa femme le sait aussi. Quand on aime quelqu'un, on veut lui être agréable. On sait qu'on ne peut pas toujours lui être agréable. Tout simplement parce que nous sommes pécheurs. Et qu'il y a des moments où on ne peut pas être agréable à l'autre, soit parce que ça ne va pas dans notre vie, soit parce que ça ne va pas dans sa vie. Mais que dire de notre relation avec le Père? Il n'y a pas de problème avec lui. Nous savons que nous pouvons toujours lui être agréable. Si maintenant, après avoir mis sur un piédestal la personne de Jésus-Christ, nous descendons d'un cran pour considérer l'apôtre Paul. Quelle est sa grande préoccupation? 2 Corinthiens 5, verset 9. Nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable. Est-ce que nous avons de l'honneur? Vous et moi? Eh oui. Est-ce que nous avons de l'honneur, le sens de l'honneur? Est-ce que nous avons une certaine dignité dans notre vie de disciple de Jésus-Christ? La Bible ne nous l'interdit pas, au contraire. Mettez votre honneur, la parole de Dieu le dit à plusieurs reprises, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, etc., n'est-ce pas? Nous devons avoir un honneur bien placé. Et dans cet honneur bien placé figure ce souci permanent de lui être agréable. Nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable. Éphésiens 5, 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Éphésiens 5, 17, dans le même chapitre, ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dieu ne veut pas que nous soyons bêtes. Soyez pas sans intelligence. Comprenez. Ce n'est pas une parole gratuite lancée débilement par un homme qui ne saurait pas ce qu'il dit. Colossiens, chapitre 1er, verset 9-10. Colossiens 1, 9-10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Alors là, une des prières qui devrait être la nôtre, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous remarquez que le terme intelligence revient. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Et pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérance et patience. rempli de la connaissance de sa volonté. Colossiens chapitre 4, verset 12. Colossiens 4, verset 12. Et vous savez, dans le cadre de cet épître aux Colossiens, où les déviations se multipliaient, des déviations que l'on retrouve aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ, une telle prière était d'importance. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre. Il vit une agonie, littéralement, pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, mûrs, adultes, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi jusqu'à présent l'intensité des termes, le totalitarisme de l'apôtre Paul, ce langage pointu, ce relief, ce propos absolu, n'est-ce pas ? Pas la volonté, toute la volonté, être rempli, n'est-ce pas ? Nous pourrions continuer. Ceci simplement pour que ce soir, si cela était nécessaire, nous soyons convaincus de l'importance du sujet d'une part, mais aussi que ce n'est pas une utopie que de croire qu'il nous est possible de discerner la volonté de Dieu pour nos vies. Personne n'a dit que c'était facile. Et je ne serai pas de ceux qui, durant ces quatre réunions, vont vous dire « voilà le truc, voilà le secret, ça marche à tous les coups. » Mais il y a dans la parole de Dieu un enseignement d'une profondeur et d'une richesse incroyable sur cette question. Et j'aimerais ici ajouter une chose avant de faire une troisième remarque, nous avons vu l'importance de la volonté de Dieu dans la vie de Jésus-Christ, nous venons de la voir dans la préoccupation de l'apôtre Paul. J'ajouterai simplement ceci, c'est que avoir la certitude d'être dans la volonté de Dieu dans le moment présent est une force absolument fantastique pour les épreuves de la vie. Une force absolument fantastique pour les épreuves de la vie. Quand on est dans une situation de tempête et qu'on n'a pas la certitude d'être là où Dieu nous veut et dans sa volonté, croyez-moi, et vous le savez peut-être, l'ennemi attaque. Et il creuse, il élargit la faille dans l'armure de notre vie chrétienne déjà en très mauvais état. Mais quand vous pouvez lever la tête devant la puissance des ténèbres et dire « je suis dans le plan de Dieu, cette situation, il la contrôle, je suis au cœur de sa volonté. » Et ça, c'est ma force. Quelle source de paix. J'étais il y a 2 ou 3 mois au Québec, et après un peu plus de deux semaines de réunion, un matin, le téléphone a sonné. Et heureusement, dans ma méditation, juste avant que le téléphone sonne, j'étais en train de méditer dans le livre de Daniel. Et je vais essayer de retrouver le verset, oui. Dieu m'a donné d'une manière toute particulière un verset, je crois que c'est dans le chapitre 10, voilà, j'ai d'ailleurs noté la date, le 8 mars 1988. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. C'est curieux, ce matin-là, dans ma méditation, J'ai eu l'impression de lire ce verset pour la première fois de ma vie. Pourtant, qui sait si je l'ai lu et épluché cet épître de Daniel, ce livre de Daniel. Mais vraiment, c'était une parole qui allait droit à mon cœur. Elle a été tellement forte ce matin-là que j'ai sorti une petite fiche vierge pour copier ce verset, tellement il me faisait du bien. Et juste après, je recevais un coup de téléphone m'annonçant une nouvelle extrêmement grave qui a nécessité mon retour d'urgence en France, où Dieu a ouvert les portes pour que j'aie l'avion, etc., dans des circonstances extraordinaires, alors qu'il y avait 250 km sous la neige jusqu'à l'aéroport. Mais qu'est-ce qui a été ma force ce matin-là? C'est de dire, mais Seigneur, je te bénis parce que je suis dans ta volonté. La tempête peut souffler. L'essentiel, c'est que je sois dans ta volonté. Et croyez-moi, ce verset m'a accompagné durant les longues heures d'attente, pendant toute une moitié de nuit dans un aéroport, me demandant si j'allais avoir une place ou pas, n'est-ce pas? Et pendant toutes les heures du voyage, jusqu'à ce que je sois sur place. Et vous savez que ce sont des moments qui ne sont pas faciles. Quand on ne sait pas comment une situation évolue et qu'on ne pourra rien faire pour la contrôler. Mais constamment, ce verset était là. Courage, courage, homme bien-aimé. Heureux celui qui est au cœur de la volonté de Dieu. Ne fût-ce qu'à cause des tempêtes de la vie. Troisième remarque, bien entendu, la volonté de Dieu doit être aussi notre principale préoccupation. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi, mon Dieu. Voilà ce que disait David, psaume 143, verset 10. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Enseigne-moi à faire ta volonté. Il y a deux aspects là. D'une part, la nécessité de discerner. Seigneur, je veux pouvoir discerner ta volonté. Mais ensuite, enseigne-moi à la faire une fois que je l'ai discernée. L'un n'allant pas sans l'autre. C'est frère André qui, dans le livre remarquable « Bâtir dans un monde en ruine », a dit ceci, écrit ceci, « Nous devons donc nous faire à l'idée que la connaissance de la vérité est plus importante que notre bonheur personnel. » D'ailleurs, nous aurons ensuite toute l'éternité pour être heureux. N'oublions pas que notre principale raison d'être sur la terre n'est pas d'y être heureux, mais de faire la volonté de Dieu. Or, l'Église de Jésus-Christ est très marquée, en France pour ne parler que d'elle, par le climat hédoniste du monde. Un monde à la recherche des plaisirs. Un monde qui aime le spectacle. Un monde qui aime le jeu. Du pain et des jeux, panem et circenses, disaient les Romains du temps des jeux du cirque, en pleine décadence. Du pain et des jeux. Ça, c'est le cri de notre civilisation sur sa fin. Mais attention, c'est trop souvent le cri de l'Église de Jésus-Christ. Voyez-vous, je vais être franc-jeu. Si ce soir, nous avions dans cette chapelle un concert, il y aurait peut-être 100 ou 200 personnes. Mais quand nous étudions la parole de Dieu, comptez combien nous sommes. Je ne suis pas amer. Ne croyez pas un seul instant que je sois amer. Je suis heureux, quel que soit le nombre. Mais, ceci dit, je souligne le problème. L'Église de Jésus-Christ est en train de devenir hédoniste. Et dans la région parisienne, on se précipite au concert, mais on ne vient plus aux études bibliques et aux réunions de prière. Et je vous mets en garde, en particulier ici dans la région parisienne, parce que bientôt, chaque semaine, vous aurez la possibilité d'avoir des concerts. Il y en avait un il y a 15 jours, c'est bientôt toutes les semaines. Et vous serez toujours tenté de choisir le plaisir. Et plus vous aurez de plaisir, mon bien-aimé, plus vous voudrez de plaisir. Parce que c'est comme ça, le plaisir c'est une drogue. Et vous serez perpétuellement des insatisfaits. Parce qu'il faudra toujours que le concert suivant soit meilleur que le concert précédent. Sinon vous serez déçus. Méfions-nous. Est-ce que dans nos choix, nous avons le désir de lui être agréable ? Ou bien est-ce que nous faisons nos choix en fonction du spectacle et du plaisir que nos choix vont nous procurer ? Ça, c'est une question que Dieu nous pose. Il vous la pose, il me la pose. Bien sûr, nous pourrions ce soir souligner que la volonté de Dieu doit être notre principale préoccupation dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Alors, par exemple, je vais prendre deux échantillons que je ne vais pas creuser, mais qui sont des pistes à suivre. Esdras 7, 17, 18. Esdras 7, 17, 18, c'est le courrier d'un roi païen. C'est intéressant, il y a des païens qui pensent bien, parfois mieux que nous. Artaxerxès, qui en plus n'était pas un enfant de cœur. Et dans Esdras 7, verset 17-18, il souligne ceci. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Hey, vous vous rendez compte ? Artaxerxès. Et il donnait une démarche à suivre, à faire, ou une marche à suivre qui était absolument orthodoxe. La meilleure partie pour le Seigneur, dit-il d'abord. Tout ce qui est pour les sacrifices. Et puis avec le reste, vous n'allez pas acheter des carambars. Vous vous conformez à la volonté de Dieu. Alors voilà un domaine immense que nous aurions pu creuser, mais nous allons nous arrêter sur le discernement et non pas la pratique. Domaine immense, celui de la gestion des biens qui nous sont confiés. J'ai d'ailleurs maintenant, depuis une année, une lourde série sur la gestion des biens. Parce que c'est vrai que c'est si vite un problème dans nos vies. Notre budget est-il établi en recherchant la volonté de Dieu ? Nos achats sont-ils soumis à la volonté de Dieu ? Qui nous motive lorsque nous sommes dans un supermarché ? Est-ce que nous cherchons à éviter les achats inutiles, superflus, trop rapides, etc. Il y aurait tant à dire. Essayons-nous de vivre simplement pour mieux pouvoir servir le Seigneur par nos dons. Notre offrande est-elle libéralité ou acte d'avarice, acte de devoir ou acte d'amour? Il y en aurait des choses à dire. Mais je les pose simplement, sans pouvoir creuser ici ce soir. Mais peut-être simplement parce que Dieu veut mettre le doigt sur un domaine où, depuis un certain temps, nous prenons des libertés. Nous gérons comme nous l'entendons, comme il nous semble bon. Un autre texte, et là aussi nous ne ferons que l'effleurer, il y aurait beaucoup à dire, Jacques chapitre 4, versets 13 à 16. Jacques chapitre 4, versets 13 à 16. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Qu'est-ce que la volonté de Dieu a à voir avec nos projets de vacances cet été ? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est avec le Seigneur que nous préparons notre été ou sans lui ? Est-ce que nous avons prié pour ça ? Est-ce que le voyage qui est prévu dans ton programme, dans les temps qui viennent, est dans le plan de Dieu ou non ? Est-ce que Jésus viendra avec moi ? Alors là, je pourrais vous lire tous les textes où l'apôtre Paul dit « Dieu voulant ». Vous savez, cette petite formule qui agace. Et elle agace parce que c'est vrai, certains finissent par le dire automatiquement. Ça fait bien, ça fait pieux, ça ne correspond pas toujours à la réalité. Mais quand l'apôtre Paul disait « si Dieu veut », c'était sérieux. Et vous pourrez les éplucher, les épîtres de Paul, et souligner tous les textes où l'apôtre Paul dit « si Dieu veut ». Vous verrez qu'il y en a plus d'un. Et puis, il y a aussi les projets de Dieu que nous n'acceptons pas parce qu'ils nous dérangent. Plus d'un. Et puis, il y a aussi les projets de Dieu que nous n'acceptons pas parce qu'ils nous dérangent. Vous savez, Jonas, lui, il a fait un voyage qui n'était pas prévu dans le plan de Dieu. Il est allé passer ses vacances, sans doute à l'embouchure du Guadalquivir, par là-bas, dans une belle région, Grenade, Séville, l'Andalousie. Et Dieu le voulait ailleurs. Mais je ne vais pas creuser, mais simplement voyez combien la parole de Dieu est pratique et précise dans ce domaine. Quelqu'un écrit, bien souvent on fait des projets et on agit n'importe comment. En se disant que Dieu n'a qu'à donner sa bénédiction, on emprunte des chemins que Dieu ne nous a jamais invités à suivre. Et par la suite, quand l'affaire a mal tourné ou que Dieu n'aide pas aussitôt à sortir d'embarras, on a encore le front de lui reprocher insolemment de ne pas tenir parole, de ne pas exaucer nos prières. Quatrième remarque d'introduction. Dieu veut nous instruire et nous diriger dans sa volonté. Dieu le veut. C'est sa volonté que nous soyons au clair avec sa volonté. Dieu fait des promesses. Une des premières paroles que Saul de Tarse a entendue de la bouche d'un enfant de Dieu, Ananias, alors qu'il était là, plongé encore dans l'obscurité qui était certainement plus qu'une simple cécité physique, mais un bouleversement terrifiant dans son être intérieur, Ananias lui disait « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. » Dieu nous destine, vous et moi, à connaître sa volonté. Ça, c'est quelque chose de fantastique. Nous n'avons pas en Dieu un dictateur, un potentat arbitraire qui nous mène comme il le veut, par le bout du nez. Pas du tout. Son plus grand désir à notre Dieu, c'est de nous montrer sa volonté. Et qui n'a pas été fortifié, encouragé par le psaume 32 et le verset 8 ? Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Oh, je me souviendrai toute ma vie d'un culte en Bretagne, à Paimpol, là où nous terminions notre ministère en 1979. Et où la Fédération évangélique de France venait de m'inviter à accepter le secrétariat général. Et j'étais travaillé dans mon cœur. et une vieille femme de Dieu, femme de prière, qui en a passé des nuits dans la prière, qui s'était d'ailleurs convertie à Jésus-Christ peu avant. Elle avait 75 ans à peu près. Elle avait été femme de prière dans le catholicisme, mais toujours déçue, et elle est devenue femme de prière en tant que disciple de Jésus-Christ. Et elle s'est levée ce matin-là, sans savoir, simplement pour lire de sa voix chevrotante le psaume 32 et le verset 8. Et Dieu me disait dans mon cœur, Maurice, ça c'est pour toi. C'est pour toi. Quel bienfait de pouvoir serrer des versets de cette dimension-là dans notre cœur. Je pourrais en citer d'autres, je ne vais pas le faire. Je pense à Jean 10, du berger, n'est-ce pas, qui mène ses brebis, qui marche devant elles. Il y a tant d'autres versets. Alors la grande question, à partir de ces quatre remarques d'introduction, la grande question, c'est comment discerner la volonté de Dieu? Comment la discerner? Et là, j'aimerais, en introduction, à un premier point important que nous commencerons à développer ce soir, tout d'abord signaler que, bien sûr, il y a plusieurs dimensions dans la volonté de Dieu. Il y a tout d'abord la volonté générale de Dieu pour tous les hommes, que j'appellerais sa volonté affective. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire de tout son cœur, mais qu'il n'impose pas à sa créature, parce qu'il l'aime. C'est le salut de tous les hommes. Dieu veut que tout les hommes soient sauvés. Volonté générale, volonté d'amour, volonté affective. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ceci dit est dit d'autre manière, nous avons lu tout à l'heure le texte de Jean 6, 40. Celui-ci, c'est donc 1 Timothée 2, verset 4. Et puis, il y a une volonté générale de Dieu pour tous les croyants et en tout temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Elle est importante parce que nous ne devons jamais la perdre de vue. Dieu a une volonté générale pour tous les croyants, et ceci en tout temps. Cette volonté, c'est notre transformation à la ressemblance de Jésus-Christ, son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est ce que Dieu veut pour tous les croyants. C'est sa volonté générale, c'est ce qu'il recherche. Et c'est ce qu'il chérit tout particulièrement. Et qui doit donc être aussi notre préoccupation. Et puis enfin, il y a la volonté particulière de Dieu pour chaque croyant dans ses circonstances. Et là, dans ce domaine, il y a le choix du métier, il y a le choix du conjoint, il y a l'utilisation du temps, il y a l'utilisation de l'argent, n'est-ce pas, tout ce qui fait le programme de la vie quotidienne pratique du disciple de Jésus-Christ. Alors cela porte toutes sortes de noms dans les Écritures. Deuxième remarque introductive au premier point, non à une recherche fantaisiste dangereuse. Non à une recherche fantaisiste dangereuse. J'ai peut-être déjà ici raconté cette histoire, ça c'est le problème quand on voyage beaucoup et qu'on revient aux mêmes endroits. Celle de ce cultivateur qui pense discerner la volonté de Dieu alors qu'il est en train de labourer son champ. Il regarde le ciel, il voit les nuages, et subitement, il voit les nuages qui prennent la forme de trois lettres de l'alphabet. Enfin, il croit discerner trois lettres de l'alphabet, ça l'arrange sans doute. A, P, C. Alors, il rentre chez lui, exalté. Elle dit, tu sais, chérie, on vend tout. Et je deviens évangéliste itinérant. Parce que j'ai vu A, P, C. Allez prêcher le Christ. Alors, on vend tout. Et puis, il commence son ministère itinérant. Et puis, ça ne marchait pas. Ça, c'est pas évident. Alors, au bout d'un certain temps, parce que la cagnotte était plutôt creuse, et les problèmes se faisaient de plus en plus aigus, sa femme ose un jour lui dire, tu sais chérie, moi j'ai l'impression que tu t'es trompé. Et elle a ajouté ceci, moi j'ai essayé de comprendre. Alors j'ai réfléchi à ces lettres que tu as vues, A, P, C. Puis je me suis dit, mais finalement non, ça ne veut pas dire aller prêcher le Christ, ça veut dire aller planter les choux. Alors, c'est vrai, c'est... une telle méthode nous amuse, et l'histoire aussi. Mais est-ce que nous ne voulons pas reconnaître que nous avons eu peut-être parfois des approches très bizarres dans notre recherche de la volonté de Dieu? Vous connaissez Georges Müller? Cet homme de foi qui, à l'heure où la sécurité sociale, l'ADAS et tout le reste n'existaient pas, a élevé 10 000 orphelins de dons à Bristol. C'était un homme de la même nature que nous. Il a beaucoup parlé de faire la volonté de Dieu. Mais il a eu de sacrés problèmes dans les premiers temps de sa vie de disciple de Jésus-Christ. Et j'ai lu dans un livre qui n'existe plus depuis de longues années en français, qui date presque de son époque, et qui est dans la bibliothèque, et je m'en réjouis. Il a eu recours, à ce qu'on appelle aujourd'hui la loterie nationale, pour savoir si c'était le plan de Dieu pour qu'il devienne missionnaire. Et j'ai là un extrait de ses notes personnelles. Il dit notamment ceci, peu de temps après, l'idée de partir comme missionnaire s'empara de nouveau de moi avec force. Ainsi qu'il m'est donné de le voir maintenant, mon caractère naturel désirait en venir à une décision d'une manière ou d'une autre. Au lieu de me tenir en repos et d'attendre le Seigneur patiemment avec prière, je conclus que je devais chercher à connaître sa volonté par la voie du sort. En conséquence, je n'eus pas seulement recours à cet expédient d'une manière privée, mais j'achetai un billet de la loterie royale, en convenant avec le Seigneur que dans le cas où je gagnerais quelque chose, j'en conclurais qu'il m'appelait à partir comme missionnaire, et que dans le cas contraire, ce serait une marque que je devrais rester dans mon pays. Mon billet sortit avec une petite somme, d'où il me parut que je devais être missionnaire. J'offris en conséquence mes services à la Société des Missions de Berlin, mais je ne fus pas accepté parce que mon père n'avait pas donné son consentement. Et alors ensuite, ça l'a fait réfléchir, et il explique, mais je ne vais pas entrer dans tous les détails, là où le bât blessait, il s'est rendu compte, il a analysé le problème. Et il s'est rendu compte que notamment le sort ne se justifiait pas, même bibliquement. Parce que c'est vrai, certains s'appuient sur Actes chapitre 1er, où tirage au sort a eu lieu pour désigner le remplaçant de Judas. Bon, je ne suis pas de ceux qui vont vous dire ce soir ils ont eu raison ou tort. Le texte ne le dit pas. Et quand un texte de la Bible ne dit rien, et que nous n'avons pas de manière claire un péché commis par rapport à tout ce qui existe dans les Écritures sur ce plan-là, on se tait. On se tait. Mais ce que je sais par contre, c'est que déjà dans le Nouveau Testament, c'est le seul texte où il est question d'utiliser le sort. Et que quand on va chercher dans l'Ancien Testament, eh bien, ils sont rarissimes. et qu'il faut donc être extrêmement prudent et circonspect, d'autant plus que nous avons un avantage extraordinaire depuis la Pentecôte. C'est que le Saint-Esprit est donné à chaque enfant de Dieu. Et il n'est pas donné 100 grammes de Saint-Esprit ou 1 kilo, c'est la personne du Saint-Esprit qui vient habiter dans nos vies. Et que d'autre part, nous avons aussi le privilège que n'ont pas eu ceux qui appartiennent au temps de la composition des Écritures, c'est que nous avons, nous, la Bible tout entière. Alors, avec le ministère du Saint-Esprit, le fait que nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ, que nous avons autour de nous quantité d'amis qui ont le Saint-Esprit aussi, que nous avons la parole de Dieu tout entière, nous n'avons donc vraiment plus de raison d'aller chercher dans cette direction-là. J'ajouterai d'ailleurs ici ceci, c'est que quand on analyse les raisons pour lesquelles il nous est peut-être arrivé d'utiliser le sort, nous nous rendons compte que c'était souvent, trop souvent, des raisons charnelles. C'était parce que nous étions impatients. Nous avions vraiment besoin d'une réponse. Alors, puisqu'elle ne voulait pas, eh bien, il fallait essayer de l'avoir. Et ça nous apparaissait comme la manière la plus spirituelle de l'avoir. Mais ce n'est pas la norme des Écritures. Surtout pas pour nous qui sommes tellement privilégiés par rapport à des frères et sœurs qui, dans d'autres pays du monde, n'ont pas la Bible à libre disposition, n'ont pas de vie d'église structurée, etc., n'est-ce pas ? Nous, nous avons tout ! Nous sommes les capitalistes du Seigneur, mes amis. Nous avons tout pour pouvoir saisir la volonté de Dieu sans recourir à de tels expédients. Maintenant, j'ajoute encore ceci, c'est que le diable, il faut s'en souvenir, cherche à faire passer sa volonté pour celle de Dieu. Et c'est aussi pour cela que le sort pose problème. Parce que comment est-ce que je vais vérifier, quand j'utilise le sort, que ce n'est pas le diable qui a donné le petit coup de pichenette pour que ça tombe juste comme ça? Comment est-ce que je vais faire? Ça pose de sérieux problèmes. Alors nous avons par exemple le roi d'Assyrie qui fait dire à Ézéchias pendant le siège de Jérusalem, « D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire ? L'Éternel m'a dit, « monte contre ce pays et détruis-le. » Ésaïe 36, verset 10, le menteur. Le menteur. Mais l'ennemi est comme ça. L'ennemi est comme ça. L'ennemi sait très bien s'arranger pour nous faire croire que dans tel domaine, c'est la volonté de Dieu. Et si nous sommes malades spirituellement, nous tomberons dans le panneau. Nous serons séduits. Nous en verrons quelques exemples d'ici dimanche. Et enfin, avant juste d'ouvrir le premier point que nous traiterons à fond demain, j'ajouterai que le discernement de la volonté de Dieu est lié à la présence, à la concomitance d'un certain nombre de points de repère. Et j'aimerais expliquer ceci à partir d'une petite histoire que vous avez peut-être même lue. Il s'agit d'une personne qui est sur un bateau, par une nuit noire et sans étoiles, en train de traverser le détroit d'Irlande. Et cette personne est là auprès du capitaine pendant la nuit, et elle est intriguée, parce qu'elle remarque que le capitaine conduit son bateau de manière absolument remarquable, dans cette espèce de couloir extrêmement sinueux et invisible, qui mène au petit port là, blotti, dans une anse. Alors, cet homme de dire au capitaine, mais comment faites-vous pour repérer l'emplacement de cette baie par une nuit comme celle-ci? Et le capitaine simplement de dire à cet homme, écoutez, venez avec moi. Est-ce que vous voyez cette petite lumière là-bas? Vous voyez, il y a une petite lumière. Vous la voyez? Bon. Maintenant, venez un peu plus loin avec moi. Vous voyez cette autre petite lumière là? Vous la voyez bien? Oui. Est-ce que vous voyez cette troisième lumière là-bas? Oui. Eh bien, voyez-vous, c'est très simple. Mon seul souci, c'est d'amener le plus rapidement mon bateau dans l'axe de ces trois lumières, dans la mesure où elles n'en font plus qu'une seule. Dans la mesure où ces trois lumières se superposent. Quand je réussis à amener mon bateau dans cet axe-là, qu'au lieu de voir trois lumières, je n'en vois plus qu'une, je sais que je suis exactement dans la bonne direction pour entrer dans la baie sans que m'arrive quoi que ce soit. Eh bien, nous pouvons dire ce soir, le discernement de la volonté de Dieu, c'est un alignement d'un certain nombre de lumières qui doivent, en quelque sorte, n'en faire qu'une seule. Et ce que nous allons voir d'ici dimanche après-midi, ce sont ces lumières. Alors, certains découperont l'étude d'une autre manière comme moi, les uns en verront trois, les autres quatre, les autres cinq, les autres six. Ça n'a pas d'importance. Nous allons en tout cas, et c'est certain, voir dans les Écritures quelles sont les lumières essentielles que nous devons mettre en œuvre, allumer en quelque sorte, n'est-ce pas? Et faire se rejoindre pour n'en faire plus qu'une seule lorsque nous cherchons la volonté de Dieu. Bien sûr, nous aurons l'occasion de faire des nuances, c'est-à-dire de faire remarquer que l'approche n'est pas exactement la même en ce qui concerne nos grands choix. Et notre vie de tous les jours, du matin au soir. Il est évident qu'il y a certaines nuances dans notre approche. On n'approche pas la question du mariage, du choix du métier, une situation de carrefour dans notre vie extrêmement importante. On ne l'approche pas tout à fait de la même manière qu'on va faire ses commissions, on va prendre l'autobus ou je ne sais pas quoi. Alors nous verrons là aussi les distinctions à faire, et c'est parce qu'on n'a pas toujours su faire ces distinctions qu'on a parfois plongé les croyants dans un certain trouble. Alors nous ferons ces distinctions. Mais je voudrais que nous puissions aller nous coucher en mettant sur notre oreiller, entre notre tête et nous, le second texte que nous avons lu. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Parce qu'il se trouve que c'est la lumière fondamentale. C'est la première des lumières. C'est la première des lumières. Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Nous relisons le texte. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça ne peut pas être plus clair, hein ? Afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'aimerais vous le lire dans la transcription d'Alfred Kuhn, qui donne un certain relief, qui éclaire ce texte. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être entier, Que votre corps, vos forces, toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et digne d'être agréée. Ainsi, toute votre vie servira Dieu. C'est là le culte nouveau qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Ça, c'est un texte, si nous le mettons ce soir sur notre oreiller, nous ne dormirons pas. Parce que s'il y a un texte qui nous dérange dans les Écritures, c'est celui-là. Qu'est-ce qui se passait avant notre nouvelle naissance ? L'Épître aux Éphésiens, par exemple, au chapitre 2, dit ceci, nous allons lire les versets ensemble, Éphésiens chapitre 2, « Vous étiez morts par vos offenses, verset 1er, par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les désirs coupables de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. » Nous alignions notre volonté sur nos pensées, sur nos désirs propres, sur nos sentiments naturels, sur le monde. Nous nous coulions dans le moule du monde. Nous adoptions les habitudes du jour, ce qui s'appelle l'esprit d'indépendance. Ceci est dit fortement dans un autre texte, 1 Pierre 4, versets 1 à 3. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs coupables des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Nous avons accompli la volonté des païens. Et puis voilà qu'un jour, au détour du chemin, la grâce de Dieu a illuminé notre vie. Nous nous sommes tournés vers lui. Et ça a été le début d'un changement extraordinaire. Et ça a été un changement de régime total, mais que nous avons eu beaucoup de peine à comprendre. Parce que lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ, on quitte le terrain de l'indépendance. On change de centre de gravité. Le nord de ma boussole, c'est faire la volonté de Dieu. Je désire désormais me couler dans le moule de la pensée et de la volonté de Dieu. Ce n'est plus moi, c'est lui. Et je mets désormais tout mon être à sa disposition en offrande vivante. Et alors c'est là que ce texte est passionnant de Romains 12. Je crois qu'il faudra qu'on le creuse un peu demain soir parce qu'il est, tellement important. Offrir son corps, c'est-à-dire toutes ses facultés, toutes mes facultés, mes yeux, qui ont peut-être regardé à la télévision cette semaine des choses qui font horreur au Seigneur. Mais c'est l'habitude. On s'habitue. La première fois, on regarde les fesses pendant 5 secondes. La deuxième fois, c'est 10 secondes. La troisième fois, ça va plus loin. Pardon de le dire comme ça. Mais c'est pas vrai. Dites entre nous, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on s'habitue à voir des choses qui feraient rougir de honte le Seigneur s'il était assis à côté de nous. Nos yeux, ils sont au Seigneur. Pourquoi est-ce que nous avons tant de peine à discerner la volonté de Dieu ? Vous voulez savoir pourquoi ? Parce que la première grande lumière, c'est l'offrande de notre corps. Offrir son corps. Comment est-ce que, avec vos yeux intérieurs, mais vous savez, les yeux intérieurs, ils sont malades si les yeux extérieurs sont en mauvaise santé. Ça va ensemble, hein? C'est Jésus qui l'a dit. Si les yeux extérieurs physiques sont malades, les yeux intérieurs sont malades aussi. Comment est-ce que nous pouvons discerner la volonté de Dieu si nos yeux externes, nos lucarnes, ouvertes sur le monde extérieur, permettent à notre mentalité de se nourrir de toutes les poubelles possibles et imaginables que le monde nous offre aujourd'hui, mes amis? C'est vrai, ce n'est pas le premier regard qui est le problème. Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler sur nos têtes, mais nous devons les empêcher de nicher dans nos cheveux, n'est-ce pas? Elle n'est pas de moi, cette phrase. Mais elle est vraie. Elle est vraie. Nos oreilles. Vous avez écouté derrière des portes? Nos mains, nos pieds. Toutes nos facultés. Si nous voulons discerner... Le terme grec signifie, si nous voulons tester, évaluer, mettre à l'épreuve, éprouver que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, et puis il sous-entend encore autre chose, discerner sans l'ombre d'un doute. Vous vous rendez compte? Si je veux discerner sans l'ombre d'un doute la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite, j'offre mon corps. Et voyez-vous, là, je vais quand même le souligner, je termine. Pour pouvoir offrir mon corps, il faut qu'il y ait des changements au niveau de ma mentalité. C'est le verset 2. Dans le texte grec, il y a d'ailleurs une petite préposition en plus qui fait que le verset 2 pourrait commencer par « Et à cause de cela, et pour cela, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. » Si nous voulons vraiment offrir nos corps, vous savez par quoi ça doit commencer? Ça doit commencer par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de notre intelligence, nous avons vu le mot intelligence, je vous l'ai souligné plusieurs fois, n'est-ce pas? Le renouvellement de notre intelligence, il commence au moment de notre conversion. C'est là le démarrage d'un processus bouleversant où Dieu va complètement changer notre mentalité. Mais il dépend de nous autant que de Dieu que ce renouvellement soit permanent, qu'il continue, que notre intelligence soit de plus en plus celle de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons la pensée de Jésus-Christ, la mentalité de Jésus-Christ. L'homme spirituel a la pensée de Christ. C'est au début de 1 Corinthiens, au chapitre 2. L'homme spirituel, l'homme qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, il a la pensée de Jésus-Christ. Tout le problème est là-dedans. Il faut que ma mentalité soit changée. C'est souvent dans nos pensées que ça commence, n'est-ce pas? J'ai traité il y a 15 jours à Fresnes justement ce thème, l'éducation de nos pensées. Comment Dieu éduque nos pensées? Est-ce que nous avons à faire dans ce domaine? Offrez vos corps, mais pour cela, laissez-vous métamorphoser par le renouvellement permanent de votre intelligence. Ainsi, vous allez discerner, reconnaître sans l'ombre d'un doute, et vous testerez, vous apprécierez, vous verrez que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Mes amis, vous ne croyez pas qu'il faut que le Seigneur soit plein de patience avec nous? Vous ne croyez pas que nous avons des choses à dire au Seigneur, vous et moi? Après ce qu'il a essayé de nous dire ce soir.